Il est 6h, bon réveil.
Nous n'avons à l'heure actuelle aucune donnée scientifique qui a été publié par les différents laboratoires. Donc, on attend de voir ce qu'il en est.
Le vaccin contre le coronavirus a-t-il été développé trop vite? C'est la question que se posent certains soignants, pourtant en première ligne contre l'épidémie. Ils ne souhaitent pas forcément passer par la case vaccination. Le bras de fer entre la France et la Suisse à propos de l'ouverture des stations de ski pendant les fêtes. Pour éviter une traversée des frontières, Emmanuel Macron envisage des mesures restrictives. Mieux accompagner les agriculteurs en souffrance. C'est ce que recommande un député qui a remis hier son rapport à Matignon. Une réalité que racontait déjà Édouard Bourgeon dans son film « Au nom de la Terre ». Et puis après plus d'un mois d'arrêt, la reprise aujourd'hui du procès des attentats de janvier 2015. Le principal accusé est enfin apte à comparaître.
Le pape François publie un livre aujourd'hui et à cette occasion, on va vous amener dans les coulisses du Vatican grâce à mon invité inattendu. C'est un humoriste très croyant qui a eu l'occasion de rencontrer le pape à l'époque, Benoît XVI. Rencontre étonnante, vous allez voir, il nous raconte dans un quart d'heure et puis on retrouvera Fanny Agostini pour Notre Planète.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et tout d'abord, vous en parliez à l'instant, Sébastien, la publication donc aujourd'hui du nouveau livre du pape François, Osons rêver, ou plutôt Un temps pour changer, c'est son titre français. Un concentré des échanges du souverain pontife avec un journaliste britannique. À l'intérieur, ses confidences et ses réflexions sur le monde de l'après-Covid. Virginie Riva.
C'était l'une des images fortes du premier confinement. Le pape François, seul sur la place Saint-Pierre à Rome, qui ne cessait de prêcher malgré l'absence de fidèles. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir que François veut livrer. Premier livre écrit par un pape en exercice pour répondre à une crise mondiale. Il en appelle à un changement de cap après la pandémie. Et pour tirer les leçons de la crise, le pape va puiser dans ses propres épreuves, et notamment la maladie et la souffrance à 21 ans lorsqu'il subit une ablation d'une partie d'un de ses poumons. Les médecins ne pouvant me dire si j'allais m'en sortir, écrit-il. Un épisode qu'il avait peu raconté jusqu'ici et dont il se sert pour expliquer comment cela lui a permis de se transformer. Son message est clair. Face à cette épreuve du Covid, il demande de ne pas désespérer mais d'en profiter pour changer. Un message qu'il adresse à chacun mais aussi aux gouvernants, inlassablement. Il en appelle à une conversion écologique, à repenser l'économie avec notamment la création d'un revenu universel. Enfin, il plaide pour un renforcement des institutions publiques, écoles et hôpitaux en tête.
Virginie Riva, donc le nouvel ouvrage du pape François qui sort aujourd'hui a été traduit en 10 langues et tiré à 55 000 exemplaires en France.
L'actualité en ce mercredi matin, c'est aussi le calendrier de la vaccination anti-Covid précisé par Emmanuel Macron.
Avec, on le sait, une première campagne prévue en début d'année prochaine, puis une deuxième phase grand public entre avril et juin. Les personnels soignants en première ligne face à l'épidémie ne feront pas partie de la première vague. Ils se feront vacciner quand un nombre plus important de doses sera disponible, a dit la Haute Autorité de Santé. Sauf qu'en réalité, selon une étude menée par Santé publique France, les soignants ne seraient pas forcément tous volontaires pour se faire vacciner, Victor Dolande.
Oui, le taux de vaccination contre la grippe est un très bon indicateur chez les soignants. Ainsi, 67% des médecins se sont vaccinés l'année dernière, un peu moins de 40% chez les infirmiers et 20% chez les aides-soignants. Gilles Pialou, infectiologue à l'hôpital Tenon, avance un début d'explication.
Ceux qui ne se vaccinent pas n'ont pas intégré que ce n'était pas seulement une protection pour eux, mais une protection pour les autres. Et ça, c'est très fort aussi pour le modèle Covid, encore plus. En plus, effectivement, pour les soignants, notamment pour les soignants non médicaux, les aides-soignants, c'est une population qui est a priori plus jeune et donc ne se perçoit pas comme à risque, à juste titre.
Quand on leur demande les raisons, les soignants non vaccinés remettent en question l'efficacité du vaccin et redoutent des effets secondaires. Pour Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, la rapidité avec laquelle les vaccins contre le Covid ont été mis au point n'aide pas vraiment.
Nous n'avons à l'heure actuelle aucune donnée scientifique qui a été publié par les différents laboratoires. Donc on attend de voir ce qu'il en est.
Pour garantir une meilleure couverture vaccinale chez les soignants, tous les spécialistes recommandent la plus grande transparence des laboratoires pharmaceutiques dans les prochaines semaines.
Les précisions de Victor Dolande pour Europe 1. Emmanuel Macron veut sévir pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger.
Le chef de l'État envisage des mesures de restriction pour ceux qui prévoyaient de traverser la frontière, faute de stations ouvertes en France, en Suisse notamment. De cette manière, Emmanuel Macron souhaite mettre la pression sur nos voisins qui, eux, n'entendent pas fermer leur station. Adrien Beck.
Faute de pouvoir convaincre ses voisins, Emmanuel Macron hausse le ton. Car non, la Suisse n'entend pas fermer ses domaines skiables à Noël, sujet très sensible de l'autre côté du Jura, à tel point que dès la fin de l'été, les autorités avaient tenté de mettre la question sur la table auprès de leurs homologues français. Sans succès, depuis, les stations françaises ont appris qu'elles n'ouvriraient pas, à l'inverse des stations suisses. Il y a donc un peu de gêne à Berne, où l'on ne veut surtout pas faire mine d'attirer les touristes français et donc de faire une concurrence déloyale. L'hypothèse d'une quatorzaine imposée par la France ne suscite donc pas d'indignation, bien au contraire, même si l'on sourit un peu de la méthode adoptée par Emmanuel Macron, vue plutôt comme un signal envoyé aux élus français mécontents, que comme une vraie menace envers notre voisin helvétique.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Il est 6h06 sur Europe 1. Comment prévenir et éviter le suicide des agriculteurs? C'est le sujet d'un rapport qui a été remis hier au Premier ministre par le député du Lot-et-Garonne, Olivier Damazin.
Un rapport qui préconise d'accompagner plus tôt les agriculteurs en difficulté. Un sujet tabou, mis en lumière l'année dernière par le film d'Edouard Bergeon, Au nom de la terre. Le réalisateur, lui-même fils de paysan, estime que son film a contribué à libérer la parole, mais il faut aller plus loin, dit-il, et rompre l'isolement dont souffrent les agriculteurs.
C'est la première fois qu'il y a un tel audit, qu'il y a une telle cartographie du mal-être agricole. Il y a des propositions qui ont été faites concrètes du député. Maintenant, il faut mettre de l'humanité dans les rouages entre les banquiers, la mutualité sociale agricole, les centres de gestion, la SAFER, c'est l'organisme qui gère les terres. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu la jungle et c'est dur de comprendre le monde agricole. Et quand on est dans sa ferme, endetté et que ça va pas bien, on met souvent les papiers et la comptabilité de côté. On peut casser ce sceau de la confidentialité et que tous les acteurs du monde agricole puissent alerter quand il y a vraiment des situations critiques, je pense que déjà on aura fait un pas.
Alors, le réalisateur Edouard Bergeon, joint pour Europe 1 par Jean-Gabriel Bourgeois.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h10, la suite du journal avec Sophie Echen.
Après plus d'un mois de suspension, le procès historique des attentats de janvier 2015 reprend ce matin. Le principal accusé a été testé positif au coronavirus. Il a mis beaucoup de temps à s'en remettre, mais d'après le dernier rapport médical, il est apte à comparaître. Pour mémoire, l'audience avait débuté il y a 3 mois, jour pour jour, le 2 septembre, et a connu de nombreux rebondissements. Justin Morin.
L'état de santé d'Ali Reza Polat est compatible avec sa présence physique aux audiences. Même si cette fois, il y a toutes les raisons de croire cet email envoyé par le président de la Cour d'assises spéciale à tous les acteurs du procès, ce n'est pas la première fois qu'il envoie un tel message. Le dernier en date, c'était il y a 2 semaines et demie. L'audience va reprendre, aucune contre-indication médicale ne s'y opposant plus. À ce moment-là, le procès est déjà suspendu depuis 2 semaines, 3 accusés ayant été testés positifs au coronavirus. Pour la reprise, tout le monde est là, sauf le principal accusé. Il souffre encore de nausées et de problèmes gastriques. L'audience ne peut se poursuivre sans lui. Pour avancer coûte que coûte, le président envisage alors d'avoir recours à la visioconférence. Tollé parmi les avocats de la défense comme des parties civiles, c'était la semaine dernière. Le président fait marche arrière, l'audience est à nouveau suspendue. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant il faut arriver au bout, me confier une des victimes, épuisée. Le procès doit se terminer dans 2 semaines. Sauf nouveau rebondissement.
Justin Morin, du service police-justice d'Europe 1. Et puis la Chine, à la conquête de la Lune, la sonde Chang'e 5 s'est posée hier avec succès sur notre satellite. L'objectif est d'en rapporter des échantillons. La Chine, qui prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030.
Le journal signé Sophie Echen.